bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans Bola Latina. Et oui, l'autre football se divise en plusieurs émissions. Vous en connaissez déjà une. Il s'agit de Culture Soccer d'Anthony Devarenne et d'Antoine Latran qui traite du football d'Amérique du Nord. Alors ne vous inquiétez pas, on ne se sépare pas, on ne sépare pas notre équipe par mauvaise entente, hein, rien de cela. On opte plutôt pour la tactique du diviser pour mieux régner. Alors que ce soit Culture Soccer pour l'Amérique du Nord, Bola Latina, que vous allez écouter tout de suite pour l'Amérique latine, l'AFC Corner, qui parlera du football asiatique et de l'Océanie, n'en hein, déplaise à Mister Mourigal, et Efrikia pour l'Afrique, tout cela reste du pur podcast Lucarne Opposée, les émissions radiophoniques des Globetrotters du foot, je l'ai toujours dit. Alors, petit changement sur le format pour ce qui est de Bola Latina, AFC Corner et Efrikia en tout cas. On va proposer dans un premier temps un petit rappel des principales actus continentales avant de passer à un ou deux sujets un peu plus approfondis. Mais ne perdons pas de temps, tout de suite, les noticias de Bola Latina. À commencer par le mercato qui est plutôt riche. Aujourd'hui, ce sera surtout du mercato, on va pas se mentir. Beaucoup de pays sont en trêve et voilà, ça achète, ça vend à toute blinde. En Argentine, où le championnat suit son cours avec son système bien à lui, Boca caracole en tête et s'offre le retour de Carlos Tevez, rien que ça. Jamais vraiment heureux au Shanghai chinois, que ce soit de son fait ou pas, on n'est pas là pour juger. El Apache est donc de retour à la Boca, où il se voit finir sa carrière, encore une fois, parce que c'est pas la première fois qu'il annonce ce genre de choses. Les Enes survolaient déjà pas mal le championnat, et voilà, qui ne va pas les freiner hein, avec une recrue comme ça. Une autre idole rejoint son Bercail après l'avoir quitté une seconde fois en 2014, il s'agit du trublion Mauro Zárate, bien connu en Italie, un peu en Angleterre aussi, hein, on le sait, il est passé par la Lazio notamment, il a eu un gros passage à Lazio, qui pose donc à nouveau ses valises en près de 6 mois au Vélez Sarsfield. On espère pour El Fortín que son retour sera aussi fructueux qu'il y a 4 ans. Il était déjà revenu une première fois, 28 matchs, 18 buts, c'est plutôt propre. On continue sur les célébrations païennes. À River, c'est le mythe vivant Gachardo qui prolonge sur le banc de la bande rouge jusqu'en 2021 et qui est parti pour établir un véritable record de longévité avec le club. Rappelons que Marcelo est depuis 2014 pour un total de 222 matchs, soit 61% de matchs gagnés et surtout 7 titres. Ce qui le place sur le podium des entraîneurs les plus titrés du club derrière deux monuments, en l'occurrence pour les citer Ramon Diaz, 9 titres, et José Minella, Minecha, pour le dire avec l'accent argentin, 8 titres, Minecha qui époque années 50, la Maquina, la Maquinita. Voilà qui va faire taire quelques rumeurs en Europe, en tout cas cette signature de Gachardo, lui qui était annoncée dans beaucoup de clubs européen. Il est une idole qui en revanche se fait la malle. Il s'agit de Pepe Sand, l'attaquant de 37 ans qui a porté Lanús sur la seconde marche de la Libertadores 2017, s'en est allé, alors ça c'est sûr qu'il s'en est allé, du côté du Deportivo Cali, a priori. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça passe moyen auprès de la direction. Tu pars ainsi et tu chies sur le club qui t'a donné un nom dans le foot, où sont passées les larmes de ton retour. Casse-toi et ne reviens pas. Et je passe quelques vulgarités qui suit ces mots. Ces mots sont signés le comptable du club, Alejandro Reyan, qui est également le beau-frère du vice-président. Mais dans tout ça, on se demande qui est réellement l'ingrat. Colombie, du coup. Allez, bonne transition, Colombie. Le gardien du National, Franco Armani, fait le chemin inverse de Sand et rejoint l'Argentine, lui. Et rejoint d'ailleurs River, qui... on va le voir, fait quand même un mercato assez sympa. Du côté de Junior Barranquilla, l'un des deux derniers semi-finalistes de Sudamericana en 2017, on sort le portefeuille pour se payer l'attaquant du Deportivo Cali, justement, Jefferson, Duque, mais on se paye également Vladimir Hernández qui végétait à Santos au Brésil, ainsi que le défenseur central péruvien Alberto Rodriguez en provenance de l'Universitario. La U de Lima justement, qui a perdu plusieurs de ses cadres, Carlos Caseda, Alexis Gomez, Luis Tejada et Alberto Rodriguez donc, renouvelle le contrat du panaméen Alberto Quintero. C'est déjà ça, on rappelle que ce monument du foot inca, hein, ce grand club de Lima, est interdit de recrutement jusqu'à juin 2018, car le club n'a pas respecté le règlement en ce qui concerne des licences de joueurs. 16 jeunes des divisions mineures ont d'ailleurs été appelés pour renforcer l'équipe première. On espère pour eux que leur centre de formation fonctionne bien. Le gros coup du côté du Pérou, c'est Sport Boy qui le réalise, un promu, en enregistrant justement l'arrivée de Luis Tejeda, le désormais ex-buteur panaméen de la U. Un Panaméen, lui aussi, décidément, le Panama, c'est de saison, c'est plutôt à la mode en 2018. Côté gros coup, au Brésil, on ne chôme pas non plus pendant la trêve. Le champion en titre, le Corinthians, a perdu gros avec les départs de Guillermo Arana à Séville et de Joe au Nagoya au Japon. Mais recrute malin pour le moment avec René Junior, le milieu de terrain défensif en provenance de Bahia, et Henrique, qu'on a connu au Napoli, un défenseur central qui vient de Fluminense qui perd de nombreux joueurs et qui a de gros problèmes financiers. Mais ce n'est pas fini du côté du Timan et on attend encore de jolis noms du côté de l'Itaquera. Deux autres gros calibres ont déjà fait péter les noms qui claquent, il s'agit de Palmeiras et de Cruzeiro. A commencer par le latéral Diogo Barbosa d'ailleurs qui part de ce dernier pour aller chez les premiers cités. Le rejoignent chez le Verdant les internationaux Lucas Lima et Weverton, respectivement en provenant de Santos et de l'Atlético Paranaense. Lucas Lima, vous l'avez déjà vu en sélection. Weverton, vous l'avez également vu en sélection durant les JO 2016. C'était le gardien titulaire pendant les JO. Du lourd donc pour ces deux recrues. Et ils seront tous les deux accompagnés de Marcos Rocha, un très bon latéral de métier en provenance de l'Atlético Mineiro, ainsi qu'Emerson Santos, défenseur de Botafogo, qui avait réalisé une très bonne saison. Mais la Raposa Mineira n'est donc pas en reste, puisque Egidio, le latéral de Palmeiras, effectue le chemin inverse. Kedilson, un autre latéral, mais cette fois-ci du Grêmio, débarque du côté de la Toca da Raposa. Bruno Silva de Botafogo, qui a fait une saison exceptionnelle, un milieu de terrain, débarque lui aussi. Donc là, c'est déjà pas mal, hein, mais la cerise sur le gâteau, parce qu'il y en a une, et pas des moindres, c'est Fred, l'attaquant vedette du grand rival de Cruzeiro, l'Atlético Mineiro. Pour rappel, l'ancien lyonnais, Mineiro de naissance, hein, il est de la région, avait été formé du côté de Zero, mais avait signé à l'Atlético il y a deux saisons en arguant que le Gallo avait en fait toujours été son club de cœur. Du coup, on peut se dire que Sainté devrait tenter sa chance, non? Puisque, bon, du coup, il a tendance à trahir ses anciennes écuries, ma foi. Enfin, bon, en vrac au Brésil, Lucas Prato quitte São Paulo pour River et sera remplacé au Morumbi par Diego Souza, en provenance du Sport Recife. Lucas Prato qui signe aussi à River, donc River, on commence à compter, ça fait Franco Armandi du National, Lucas Prato, et on va y venir, il y a un troisième. Le tricolore perd également de São Paulo, hein, perd également son prophète Hernanes, et ça c'est beaucoup plus problématique, qui a été rappelé en Chine par Hebei. Hernanes devrait tenter de négocier un éventuel retour définitif à São Paulo, mais ça paraît très compliqué. L'Atlético Mineiro recycle du vieux ou du tricard, avec le vieux Ricardo Oliveira de Santos, Arouca, milieu de terrain de Palmeiras, ou encore Roger Guedes, un ailier plutôt performant du côté de Palmeiras, mais qui a apparemment quelques problèmes de caractère et d'intégration au sein du groupe Palmeirense. Et enfin, Flamengo perd son entraîneur colombien, l'expérimenté Reinaldo Rueda, qui a pris la tête de la Roja chilienne. On ne peut quitter le Brésil sans mentionner l'ami Paulo Miranda. Le défenseur central a réalisé un coup de maître en déclarant lors de sa présentation que l'international a l'une des meilleures défenses du monde. C'est très gentil pour le Colorado, sauf que le nouveau club de l'ancien du Red Bull Salzburg, c'est justement le Grêmio, dont l'Inter est le rival Oni. Parabéns Paulo, là tu démarres très très fort. Enfin, petit passage par le Mexique où la Liga MX a repris ses droits. Une seule journée a été jouée pour le moment, et ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'activité de l'América sur, sur le marché des transferts. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne, qui semble clairement avoir décidé de faire une mise à jour de son statut de mastodonte à l'échelle nationale et même continentale, en recrutant un gros nom européen. Il s'agit de Jérémy Ménez, vous en avez sûrement entendu parler déjà dans la presse française, mais il ne s'arrête pas là puisqu'il courtise également l'un des meilleurs attaquants du championnat hollandais de l'Eredivisie. Il s'agit de Luc De Jong. Côté départ, c'est Silvio Romero, l'Argentin, qui leur a fait de la place en signant à, je vous le donne en mille, River. Voilà la troisième recrue de River. River, donc on récapitule, Lucas Prato, Franco Armani, Silvio Romero. C'est pas du tout dégueu comme mercato du côté du Monumental. Maintenant, chers amis, pour notre premier focus Bola Latina, j'aimerais que l'on se penche sur l'exploit réalisé par Pele Zeledon au Costa Rica, l'histoire d'un petit poussé qui a renversé l'habituelle hégémonie des trois caïds locaux. Olé, olé, olé. Nous allons donc partir du côté du Costa Rica, de notre cher chamois costaricain de l'Isère, notre grenoblois Grégory Chaboch. Tiens, en parlant de Grenoble, ça marche, on va laisser l'Amérique latine de côté deux secondes. Grenoble, le GF38, ça va fort, non? Ça marche bien?
alors déjà, salut à tous. Et oui, effectivement, GF38, ça tourne bien. Troisième du national, du championnat national, et qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France dont on attend le tirage.
Et quand est-ce que tu leur amènes des petits joueurs costaricains à Grenoble ?
Eh ben, crois-moi si tu le veux, mais sache que Max Marty, le directeur général du GF38, connaît très très bien l'un des plus grands agents costariciens dont j'ai fait une interview notamment pour le Carnet Opposé. Donc ça pourrait bien se faire rapidement.
Mais c'est qu'on aurait bientôt de l'info breaking news mercato, du mercato national, mais du mercato
t'emballe
quand
pas
même.
Non plus.
Mercato national Costa Rica, ça va loin, Lucarne opposé.
C'est ça.
Et ben donc, voilà. Donc le Costa Rica, les Ticos, ou la Clausura, c'est l'Apertura 2017 a rendu son verdict. Et un verdict très particulier que je voulais détailler avec toi, tout simplement parce que le petit club de Pérez Zeledon a remporté la mise, a remporté le trophée. Et si je me trompe pas, c'est leur premier trophée. C'était un tout petit et c'est la grande surprise. Alors avant de partir sur le quadrangular, parce que je vous le rappelle, tu l'as déjà expliqué plusieurs fois, un peu comme en Belgique et dans d'autres championnats, il y a donc une phase à, si je me trompe pas, 12 équipes. Ils sont combien ? C'est ça, 12 équipes.
C'est ça.
4 qualifiés qui eux-mêmes vont se faire un tournoi à 4 et les deux premiers vont s'affronter en finale. Jusque-là, on est d'accord.
Jusque-là, on est d'accord. Avec petite particularité, si le gagnant du quadrangular est le même gagnant que la phase régulière, alors il est champion et il n'y aura pas de finale.
C'est vrai, c'était à préciser. Et du coup, voilà, avant de parler du quadrangular, on va revenir un petit peu, je voudrais que tu reviennes rapidement quand même sur le championnat régulier, la phase régulière, parce que pour que Pérez Zeledon passe, il s'est fait un peu de place. Avec notamment en laissant de côté un gros local, c'est Alajuelense, qui ne s'est pas qualifié pour le quadrangular. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que Alajuelense, c'est pas si facile à dire que ça, c'est quand même un des cadors du Costa Rica. Et ne pas le voir en quadrangular, c'est assez anormal.
Ouais, alors rapidement, sur ALA, sur LDA notamment, c'est un peu l'acronyme qu'on leur donne, LDA, c'est surtout c'est une mauvaise gestion de la part de tout le club qui dure déjà depuis quelques temps. Et là, on est cette saison, ce début de saison, premier tournoi de l'année, c'était vraiment l'apogée de la mauvaise gestion. Benito Floro, l'ancien sélectionneur notamment du Canada, qu'on a connu sur le Carnot Opposé, qui a été entraîneur du Real Madrid pour la saison 2001, si je ne dis pas de bêtises, avait pris à la Juelense la tête de l'équipe début août, si je ne dis pas de bêtises, ou un peu avant la saison dernière, et il est parti en courte saison. remplacé au pied levé. Finalement, ça marche toujours pas avec son remplaçant. Et son remplaçant est limogé à la fin de ce tournoi. Donc, à la Roland, c'est 22 matchs joués, 8 victoires, 7 nuls, 7 défaites. C'est une grosse équipe. C'est comme si, je vais prendre par exemple en France pour vous expliquer. En France, c'est comme si l'Olympique de Marseille, par exemple, finissait pas dans les 4 premiers, quoi. Voire même plus.
C'est arrivé souvent ces derniers temps, mais
ouais,
ça reste toujours une anomalie. Voilà.
Exactement, ça reste une anomalie et c'est surtout un grand club qui déçoit un peu, même si là j'ai des bonnes sensations pour le tournoi qui va arriver, pour le Clausura. J'ai des bonnes sensations et j'ai l'impression qu'il va se passer des choses intéressantes. Mais on en reviendra tout à l'heure. Si tu veux que je fasse rapidement un petit bilan du tournoi.
Oui, parce que j'allais enchaîner, tu le sais, sur
voilà.
Les noms qualifiés. Alors sur les noms qualifiés, il y en a que des noms qu'on a rarement évoqués, parce que jusque-là, depuis que sur les podcasts, Lucarne Opposé, on fait le Costa Rica, on s'était pas qualifié. Donc voilà, Municipal Grecia, Cartagines, la Universidad de Costa Rica, Carmelita, Guadalupe, etc. Mais moi, il y en a un qui me tient à cœur, qui s'était régulièrement qualifié, et qui là ne s'est pas qualifié, c'est bien sûr le petit Limón de Yetsin Tereda.
Exactement.
Interviewé aussi.
Exactement. 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 De Limón. Écoute, Limón, c'est une petite équipe. Hein. C'est pas quelque chose de très grand. Donc, je dirais que dans le trio de tête, évidemment, ils n'ont pas leur place. Mais ils auraient pu gratter la quatrième. Et ils n'étaient pas loin. Hein, ils étaient pas loin. Ils finissent avec un point de retard, par exemple, sur à la Roland C et seulement 5 points de retard sur Zeledon, qui donnera évidemment le parcours qu'on suivra ensuite. Mais Limón, c'est un petit club. Tu les as tous cités, hein. On parle évidemment de Liberia, Carmelita, Guadalupe. Ah, c'est des petits clubs. Vraiment, celui qui est un peu plus déçu, c'est Cartagines, qui n'est pas lui un petit club. J'en avais beaucoup parlé au moment où Justin Campos était l'entraîneur, parce que j'aimais bien le jeu proposé, c'était du jeu offensif. Malheureusement, il est parti du côté de la Bolivie à Blooming, si je ne dis pas de bêtises. On me corrigera d'ailleurs si j'ai dit de bêtises, mais il est parti et depuis son départ, ça va un peu mieux pour Cartagines. Voilà, après Limón, encore une fois, c'est un petit club, donc voilà. Il a 7e, c'est une place qui lui convient à peu près.
Oui, mais voilà, à Lucarne Opposée, on a des petits chouchous et Limón est un chouchou, Lucarne Opposée, enfin, en tout cas, c'est l'un des miens. Voilà, je te propose de passer du coup à l'étape suivante et de passer au quadrangular. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que de plus je m'intéresse aux championnats du Costa Rica avec toi, plus je remarque un peu ce fonctionnement. En gros, le Costa Rica, c'est un quadrangle, donc c'est 4 places pour un système final. Et en gros, c'est 4 places. Si on suit la logique, c'est Herediano, Saprissa, Alajuelense plus un.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
Selon,
en fait, c'est un quadrangulaire qui est un peu un quadrangulaire réservé aux 3 premiers. L'anomalie, c'est cette fois-ci qu'Alajuelense ne s'est pas qualifié justement pour ces quadrangulaires. Donc, on s'est un peu demandé qui allait prendre cette place. C'est Santos de Guapiles qui a pris cette place. Santos de Guapiles qui a fait un super parcours en Liga CONCACAF. Honnêtement conseille le papier qui va arriver dans quelques instants. Dans quelques jours, pardon, sur le Lucarne Opposée, où voilà, je fais un petit bilan de la Liga CONCACAF de Santos de Guapiles. La Liga CONCACAF, pour aller rapidement, c'est un tournoi qui a été organisé. Le vainqueur de ce tournoi est qualifié pour la phase finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF. Santos de Guapiles a perdu en finale face à Olympia, un club hondurien, panaméen, je crois, ouais, c'est ça, panaméen. Donc c'était vraiment ils ont fait vraiment un très très beau parcours et ils se retrouvent 3e donc de la phase régulière. Alors on se dit, bon bah voilà, les Santos de Guapiles ont pris la place d'Alajuelense, et le quatrième, la petite surprise, c'est Pérez Zeledon.
Et on arrive donc sur ce quadrangular, donc comme tu l'as dit, Saprissa, Herediano, Santos Guapiles et Zeledon, et un quadrangular qui va donner le classement suivant, donc Pérez Zeledon à la surprise générale, qui finit premier avec 4 victoires, un match nul, une défaite. Deportivo Saprissa, ça c'est plus donc classique, avec 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Et donc Herediano et Santos de Guapiles, qui s'est un peu écrasé, voilà, contre les trois autres.
Ouais.
Mais d'où sort? Voilà, on va directement se focaliser en fait sur Zeledon, parce que c'est
ouais.
ça le truc du quadrangular avant même de penser à la finale. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient ce Zeledon? Qu'est-ce que c'est que ce Pérez Zeledon?
Mais en fait, Pérez Zeledon, si tu veux, c'est un peu c'est l'histoire qu'on aime bien en général. C'est le petit poussé, c'est l'équipe qui normalement n'a rien à faire là, hein, clairement, n'a rien à faire là, et qui va surprendre tout le monde. C'est un petit groupe formé de joueurs qui sont pas forcément voilà des stars, c'est pas des cracks si tu les prends individuellement, mais voilà, quand tu les assembles un par un, bah ça voilà, quand tu fais un groupe de tous ces joueurs, ça devient finalement une bonne équipe. Et je crois que l'entraîneur Jan Koumé a su faire de cette équipe un groupe, et a soudé vraiment son groupe. Et voilà, ça finit à ce qu'on connaît, c'est-à-dire le Pérez Zeledon qui finit premier. Mais premier, attention, pas premier par défaut, hein. Premier, ils vont battre Herediano à la maison, face à là-bas à Herediano, et ils battent Saprissa dans un match extraordinaire 3-2 à Zeledon, où Saprissa prend la tête et est finalement renversé. Ils battent les Santos de Guapiles lors de la dernière journée. C'est voilà, ils sont pas là par hasard. Ils ont vraiment vraiment mérité leur qualification pour la finale. C'est voilà, tu l'as dit, 4 victoires sur 6 matchs. Voilà, t'es pas là par hasard. Ils ont fait vraiment une très très grosse quadrangulaire, et ils méritent leur place.
Donc la force de Pérez Zeledon, comme tu l'as dit, c'est
C'est le
l'union qu'a su
collectif.
créer, c'est le collectif qu'a su créer son entraîneur, dont tu vas me rappeler le nom.
José Giacone.
José Giacone. Et donc c'est le collectif, l'union, mais pas que ça. Voilà, il y avait du jeu également.
Ouais, alors après, le jeu, c'est pas, voilà, c'est quelque chose d'un peu de rudimentaire, hein. C'est pas non plus, c'est pas un jeu porté vers l'avant, extraordinaire. On n'en est pas là non plus. Mais c'est un jeu, voilà, qui est efficace. Ils prennent pas beaucoup de buts, hein. Ils en ont pris que 6, ils en ont marqué 9. Donc voilà, tu vois un peu le style d'équipe dont on parle. Après, honnêtement, pour moi, vraiment, s'il fallait les décrire en un mot, c'est l'union, quoi. Tu avais l'impression que dans cette équipe, il y avait une union sacrée, et que quoi qu'il arrive, cette équipe pouvait retomber sur ses pieds. Et on l'a vu notamment lors du match face à Saprissa, où ils prennent quand même 2 buts et ils arrivent à renverser la situation. Enfin voilà, tu te dis à ce moment-là, c'est pas n'importe quoi qu'on a devant nous, quoi. Ils sont 2 fois menés au score dès la 4e minute, ils égalisent, ils sont remenés au score juste après la pause, et là ils inversent, ils égalisent et ils marquent le dernier but à la 90e plus 4. C'est voilà, clairement, sur ce match-là, tu as une belle photographie de ce qu'est Pérez Zeledon. C'est une équipe qui lâche rien, c'est un groupe qui est uni, et à ce moment-là, on espère, tout le Costa Rica, sauf Herediano évidemment, espère qu'ils vont aller au bout, quoi.
Et du coup, de ce collectif, il y a quelques têtes qui ressortent, ou c'est vraiment
Ouais,
tellement un collectif que voilà,
non.
ça en restera là?
Non, 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 évidemment, dans un collectif, même le plus fort possible, tu as toujours 2, 3 joueurs qui en sortent. Moi, j'ai sorti personnellement les deux attaquants centraux, puisque c'est eux qui sont arrivés lors du mercato d'été. Et pour moi, c'est eux qui résument très bien le Pérez Zeledon champion. Le premier, c'est Josué Mitchell, un attaquant central, 29 matchs, 12 buts à lui seul. C'est un joueur qui a vraiment, qui a navigué entre plusieurs clubs au Costa Rica: Cartagines, Limón, Belén, Santos de Guapiles, Universidad de Costa Rica, et pour finir à Zeledon. Et il a ce titre avec Pérez Zeledon. Le deuxième, c'est Lauro Casal. Alors là, c'est un profil totalement différent. C'est un attaquant paraguayen, formé là-bas, hein, au Paraguay, à Rubio. Alors honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas bien ce club. Ensuite, il a fait un passage en Équateur, et il vient de l'Équateur jusqu'à Pérez Zeledon. Et à ce moment-là, bah, on se pose des questions, hein, sur ces deux joueurs qui arrivent. Voilà, à Pérez Zeledon, il marque 10 buts sur les 29 matchs. Donc à eux deux, bon, ils marquent quand même les 22 buts de Pérez Zeledon. Et pour moi, ça, voilà, c'est ces deux joueurs vraiment qu'il faut sortir du collectif, quoi.
Si je peux juste corriger, apparemment,
Ouais.
Lauro Casal, il a un passage d'abord à Sol de América, avant, donc au Paraguay, et quelques Sportivo Luqueño aussi, je vois, Capiatá, un petit passage au Venezuela, Deportivo
Venezuela,
Lara,
ouais.
La Guaira, et après il est au Roberto Niu, et après Équateur, etc. D'accord.
C'est ça.
Et donc voilà pour les deux attaquants, et voilà, c'est tout. Pour toi, ce qui a fait la différence au sein de Pérez et Ledon, c'est l'union et peut-être du coup le talent de ces deux avants.
Ouais, exactement. Et également sur une colonne vertébrale. C'est des mecs qui ont joué vraiment l'intégralité des matchs. José Mitchell a joué les 29 matchs. Lauro Casarà a joué les 29 matchs. Au niveau du milieu terrain, on a Keylor Soto qui a joué les 29 matchs. Pablo Ascuzar qui a joué les 29 matchs. Derrière, on a Lopez et Guzman qui ont joué 24 et 25 matchs. Le gardien, Brian Segura qui a fait les 24 matchs également. Il y a vraiment une colonne vertébrale. Et autour de cette colonne vertébrale, Diakoné a pu vraiment bâtir quelque chose de solide, quoi. C'est pas. C'est vraiment un collectif, c'est une base solide et quelques joueurs sont venus se greffer après sur cette base, mais c'est vraiment voilà, Barrantes aussi, Luis Barrantes que j'oubliais, qui a été très bon, l'ailier, voilà, c'est une base de cette équipe qui a permis ce club de vivre ce moment magique.
Et en parlant de bâtir, Pérez et Ledon, c'est un petit club, surtout comparé donc, aux trois grands autres. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un succès comme ça, ou on peut penser à du futur pour ce club, un futur un peu plus doré, où ils sont déjà en train de se faire piller peut-être?
Non, alors là, sur le mercato, ils sont arrivés un peu à garder leur force. Ils ont également recruté, si je dis pas de bêtises, un des gardiens de Saprissa, alors pas le gardien numéro 1, mais le gardien numéro 2. Je pourrais pas te dire. Pour l'instant, on a vu qu'un match qui s'est passé donc ce week-end. On a vu qu'un match du Clausura. Je pourrais pas te dire aujourd'hui si ça va durer ou pas. J'espère que ça va durer parce que voilà, c'est un club qui donne envie. Cette saison a été magnifique pour eux. On espère tous que ça durera un peu. Mais leur durée de vie semble quand même relativement mise en danger, quoi. Ça m'étonnerait si tu veux que ça dure, mais je l'espère, quoi.
D'accord. Bah écoute, en France, on aime bien les histoires de petits poussés. Et voilà, c'était l'histoire un petit peu du petit poussé de Pérez et Ledon, le petit poussé du Costa Rica qui est venu taquiner trois géants. Parce que voilà, pour le rappeler un peu, pour mettre en perspective l'exploit du Pérez et Ledon, ils viennent se glisser dans un championnat qui n'avait pas été remporté par une autre équipe que les trois autres, donc on va rappeler Saprissa, Herediano et Alajuelense, depuis 2009. Moi j'ai 2009 avec Brujas et Liberia deux fois de suite. Et sinon voilà, après ces deux-là, tu remontes encore à 86 Punta Arenas et voilà. Et à chaque fois entre tout cela, voilà, c'est que les trois.
Voilà, ce qu'il faut bien.
Voilà, Saprissa, c'est 33 championnats, à la Alajuelense 29, Herediano 26, et après, on tombe directement à d'autres clubs, la Libertad. Si...
Ouais, voilà, ce qu'il faut.
Voilà, et des clubs qui gagnaient dans les années 20, dans les années 40.
Voilà, ce qu'il faut bien expliquer à nos auditeurs qui veulent un peu cerner ce championnat. Ce qui vient de se passer là sur cette ouverture, c'est vraiment. Ça arrive une fois tous les 25-20 ans. C'est ça qui est important. Et là, vraiment, on a eu le sentiment que cette équipe, en plus, le méritait. Et vraiment, tout le Costa Rica était derrière, évidemment, sauf Herediano, mais tout le Costa Rica les soutenait. Et voilà, ils finissent en plus par gagner. Mais c'est vraiment quelque chose qui arrive une fois tous les 20 ans. Et c'est pour ça que ça a pris une super ampleur, quoi.
D'accord. Et donc, le Clausura est reparti, là ?
Oui, exactement. Il a été lancé donc ce week-end. Du coup, on va peut-être commencer par Herediano, parce qu'on n'en a pas parlé, justement. On s'est un peu concentré sur Zeledon. Mais Herediano, si vous voulez, avec son ancien entraîneur, dont j'ai perdu le nom, je vais le retrouver, Hernan Medford, voilà, avait vraiment dominé, mais de la tête et des épaules, la première partie du championnat, la phase régulière. On ne voyait pas comment le titre pouvait leur échapper. Et à partir du quadrangulaire, au départ du quadrangulaire, ils se sont effondrés totalement. Hernan Medford était vraiment, vraiment sur la défensive. Il a critiqué les supporters, il a critiqué ses joueurs, il a critiqué presque tout le monde. On sentait qu'il y avait une mauvaise... Ça partait un peu en sucette. Et voilà, et ils finissent troisième du quadrangulaire. Et évidemment, quand t'es pas en forme, quand t'es pas sur une bonne dynamique, tu ne peux que perdre. Enfin, c'est une équipe qui est sur une bonne dynamique. Donc après ce petit problème... a décidé de partir d'Herediano. Il a signé dans un autre club, pas au Costa Rica, j'ai oublié le pays, mais c'est pas grave. Il est parti, donc il me semble que c'est Trinité et Tobago, mais je suis pas sûr. Il a été remplacé par Jafet Soto, donc l'ancien joueur de l'ancien milieu de terrain du Costa Rica, 63 sélections, hein, pour vous dire un peu l'importance de que cet homme-là. C'est un homme d'Herediano, hein, c'est un homme qui a été formé là-bas et qui a fini sa carrière là-bas. C'est vraiment un monsieur très important dans l'histoire de ce club. Il a pris l'équipe d'Herediano et bon bah voilà, ça commence pour l'instant sur des plutôt bonne base. Ils ont gagné hier face à Universidad de Costa Rica 1-0. Ils sont arrivés notamment à prolonger Azo Feifa, l'international costaricien, le milieu de terrain, ce qui est une bonne idée selon moi. Ils ont également signé le retour de Yendrick Ruiz, un attaquant que j'aimais plutôt bien et qui était parti, et finalement ils sont arrivés à le faire revenir, ce qui est une bonne nouvelle pour moi. Il y a aussi ce petit joueur que je vous conseille de suivre, Jimmy Marin. J'en avais parlé lors de la Coupe du Monde U20, si je ne dis pas de bêtises, en Corée du Sud. Il était dans la sélection et c'était déjà un joueur à suivre. Et là, il a pris vraiment de l'importance à Herediano, et telle importance qu'il en devient maintenant titulaire. Vraiment, je pense que ce sera un joueur à suivre, un joueur qui ne devrait pas rester longtemps à Herediano. Voilà pour les Rory Marilos. Sur Saprissa, alors sur Saprissa, justement, eux ont été un peu décevants. Ils ont été un peu moyennasses lors du tournoi du championnat classique. Voilà, régulière, merci. Ensuite, dans le quadrangulaire, bah, clairement, on les attendait pour la finale face à Herediano. Ils se font finalement chipper la place par la magnifique histoire de Zeledon. Mais il y a un autre problème. Il y a le problème de Carlos Watson, l'entraîneur, qui est malade, qui est pas en forme, et il a des graves problèmes de santé. Il a raté tous les 5 premiers matchs du tournoi régulier. Pardon, pour se faire opérer. Voilà, il y avait vraiment un gros problème au niveau de sa santé. Du coup, je pense que ça a un peu impacté malheureusement sur l'équipe. Mais là encore, une nouvelle preuve que, par exemple, dans les clubs au Costa Rica, le président et Paulo Wanchope, le directeur technique, a peut-être mal géré la situation. Alors, il faut rappeler que Carlos Watson est le parrain de Wanchope. Ils sont de la même famille. Alors, est-ce qu'il y a eu un peu de complaisance par le fait qu'ils soient de la même famille? Peut-être. Mais voilà, je pense que garder un entraîneur qui est malade à la tête de ton équipe, c'est pas la meilleure façon de procéder. Naturellement, il est parti il a libéré le poste, et c'est son adjoint Vladimir Quesada qui a pris la relève, et ça marche tout de suite, hein. Là, on rentre dans le tournoi de clôture. Saprissa a gagné ce week-end donc 3-0 face, j'ai perdu l'équipe, je vais vous la retrouver tout de suite, face à Liberia. Donc voilà, il n'y a pas de problème, ils sont promis au goal average, puisqu'ils ont mis 3-0, personne n'a fait mieux. Je vous recommande d'ailleurs le but de Colin Dress ce week-end, qui est magnifique. C'est un intérieur du pied à l'angle de la surface de réparation, il est excentré côté gauche, un intérieur du pied magnifique, il lobe tout le monde et il lobe le gardien. Donc voilà, ça a pris ça vraiment à donner le tempo, et je pense qu'il faudra compter sur eux. Je voudrais juste simplement finir par Alajuelense, si tu le permets, donc qui est à la relance. Fernando Campos, le président d'Alajuelense, avait eu une super idée, je trouve, en nommant Ruben Israël en tant que coach, un coach qui est notamment passé par la Colombie, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça, c'est la Colombie. Et malheureusement, il a dû lâcher le poste, abandonner le poste pour des raisons personnelles, pour des problèmes personnels qu'il doit régler en Uruguay, parce qu'il est uruguayen. Et donc, c'est son adjoint Nicolas Dos Santos qui va prendre sa place à la tête du club. Et ce week-end, ils ont gagné contre Grecia 2-1, dans un match un peu bizarre, je l'avoue. Ils menaient 1-0, ils se sont fait égaliser. Quand ils se sont fait égaliser, on s'est tous posé la question, est-ce que la mauvaise passe va continuer? Finalement, ils ont gagné ce match 2-1. Et on a pu assister au centième but de Jonathan McDonald. Alors, c'est un attaquant, je vous en avais parlé, il me semble, lors du dernier podcast. C'est un attaquant que je trouve très bon. Il a essayé sa chance à l'étranger. Ça n'a pas super bien marché.
Surtout.
historique surtout. Il a pas bien marché. Il a fait notamment un petit passage par la Suède où voilà, il s'est totalement raté puisque l'intégration a été très compliquée. Il est revenu au Costa Rica à la relancée. Donc voilà, c'est pour moi c'est un super joueur. Il a marqué son 100e but et je trouve que 100 buts en première division c'est quand même notable. Donc il fallait le dire.
Très bien, et ben merci mon Greg
ah.
pour ce petit passage sur le Costa Rica.
Ouais, pas de souci.
Comme d'habitude, dis-moi un petit mot.
Non, ouais, juste j'allais oublier. Il me semblait que j'avais oublié un truc sur la relancée. Simplement que voilà, si vous suivez un peu les matchs ou même les résumés ou les vidéos, jetez un œil au gardien de la relancée. C'est Pineda, c'est un jeune gardien, lui aussi qui a fait partie du mondial U20 en Corée. Je me tromperai pas pour dire que c'est un futur très grand gardien.
Très bien. Et bah c'est noté. Et on te remercie, voilà. Greg. Et on te dit à la prochaine. Ciao, ciao.
Ciao.
J'aimerais maintenant vous embarquer au Pérou où se trouve Romain Lambert qui fait ses débuts dans l'équipe de Lucarne opposée et avec qui on va parler, tenez-vous bien, de Paulo Guerrero, de Momi Inca et de molécules de cocaïne. Troublant, non? C'est parti.
Partons donc pour le Pérou, le pays des Incas, hein, un pays qui n'a pas été beaucoup exposé sur Lucarne opposée, car on a longtemps manqué de chroniqueurs pour ce championnat, pour cette nation du foot qui ma foi va être bien mise en lumière en 2018 puisqu'elle a été qualifiée pour le mondial, chose qui n'était pas arrivée depuis tu vois là déjà premier trou 86.
36 ans.
C'était 78, 82.
Voilà.
Et voilà, vous venez de l'entendre, et bien maintenant on va pouvoir parler du Pérou, on va pouvoir couvrir le Pérou avec Romain. Comment vas-tu, Romain Lambert?
Bah voilà, moi ça va bien, donc je suis Romain, correspondant au Pérou, ici envoyé spécial en quelque sorte sur place à Lima. Voilà, j'habite ici depuis 2 ans, donc voilà, je vais tâcher de couvrir voilà, le football, comme tu dis, au Pérou, qui est une grande nation du football, mais qui a malheureusement été absent trop longtemps d'une Coupe du Monde. Donc voilà, c'est le retour des Incas, donc voilà, et je vais essayer de couvrir ça au mieux avec Lucarne Opposée.
Très bien, bah écoute, on a hâte de te lire sur Lucarne Opposée. Tu as déjà écrit quelques articles, notamment parlé, j'en ai lu un sur le Sport Boys qui était très intéressant. Et voilà, et là en fait aujourd'hui tu voulais nous parler du cas Paulo Guerrero, car pour le petit rappel des faits, pour ceux qui ne le connaissent pas, et ça c'est une grande faute, un grand manque de culture footballistique, si vous ne connaissez pas Paulo Guerrero, l'attaquant de la sélection nationale du Pérou, actuellement attaquant de Flamengo, même s'il est sur le départ a priori. Le grand numéro 9, l'idole, le grand attaquant de cette sélection du Pérou, était sous le coup d'une sanction de la FIFA pour des résultats positifs à la cocaïne. Après un match, après tu vas nous le rappeler, après quel match?
Voilà, alors donc c'était effectivement, on va faire un récap un peu du dossier Paulo Guerrero. Donc c'était après le match, donc après l'Argentine, donc c'était début octobre il me semble, donc où le Pérou se déplace dans le cadre des éliminatoires à la Bombonera. Voilà, donc match nul en plus arraché par le Pérou, très bon point pris.
Match nul héroïque.
Voilà, héroïque, ouais, avec vraiment un super groupe péruvien qui a souffert mais qui a tenu ce nul. Et donc voilà, ensuite on a eu la fin des éliminatoires avec le match contre la Colombie. Donc pareil, match nul grâce notamment à l'attaquant, donc l'attaquant vedette Paulo Guerrero, qui a mis ce coup franc et qui a envoyé un peu la sélection au barrage pour se qualifier par la suite au mondial.
Alors on fait déjà un petit coucou à ta petite fille qu'on entend en fond, hein, c'est les aléas du direct, ma foi, c'est
ouais,
Lucarne Opposée, c'est comme ça, c'est quelque chose de familial, Lucarne Opposée.
mais donc petite franco-péruvienne qui est parmi nous.
Mais donc le gars Paolo, qui est donc le héros de la qualification, comme tu l'as dit, avec ce coup franc contre la Colombie, eh bien il a été contrôlé positif à la cocaïne et il a été suspendu au départ pour une très longue période que tu vas nous donner parce que je l'ai plus exactement en tête,
oui.
Par la FIFA. Et il se trouve que cette période, et ce qui lui faisait manquer la Coupe du Monde, c'était ça le drame.
Voilà.
Il se trouve que cette suspension a été réduite et que Paulo va pouvoir participer au Mondial. Et c'est ça que tu vas nous expliquer parce que la réduction de cette suspension est assez acadabrantesque.
Voilà, effectivement, ça fait partie un peu du folklore ici au Pérou. Donc, comme tu l'as dit, en fait, il a été suspendu au début pendant 30 jours par la FIFA en attendant les résultats. Donc, au début, on parlait d'une drogue sociale, donc de la cocaïne. Et voilà, les médias ont parlé de voilà, Paolo, il a pris de la cocaïne pour un peu se donner des forces hein, pour le match contre l'Argentine, mais qui a été écarté très rapidement par la FIFA, parce qu'en fait, c'était une molécule qui appartient à la cocaïne, qui s'appelle la benzoylégonima, quelque chose comme ça. Mais bon, en attendant de poursuivre l'enquête, donc 30 jours, suspension de 30 jours, où les avocats ont fait tout leur possible pour démontrer que non, il n'était pas au courant d'avoir pris quelque chose comme ça, d'avoir des traces de cocaïne dans son alimentation. Mais malheureusement, voilà, le 8 décembre, la sanction elle tombe, c'est un an. Donc voilà, Paulo Guerreiro, un an suspendu. Donc à partir du 3 novembre, donc ça fait 3 novembre 2017 jusqu'à 3 novembre 2018, et effectivement, il rate le mondial. Donc là, c'était vraiment le gros tremblement de terre au Pérou.
Ah bah, c'était le gros coup derrière la nuque pour la sélection péruvienne, puisque là, voilà, c'était
voilà.
Partir au mondial pour la France, je ne sais pas, sans Griezmann, voilà,
c'est
vraiment
un peu
de Tacabella, quoi.
Enfin, je dirais même un peu ouais, pire, parce que c'est vrai que bon, Paolo, c'est le meilleur capitaine, c'était très dur. Surtout qu'en plus, pour une autre anecdote, c'est je parlais du 8, c'est le 8 décembre 2017, c'était en plus une date un peu... voilà, c'est en fait l'Alianza Lima, le club de la capitale, rendait hommage, donc c'était les 30 ans de la tragédie aérienne qui a coûté la vie à l'équipe de l'Alianza Lima, donc voilà, après un crash d'avion, dont il y avait l'oncle de Paolo Guerreiro qui était présent dans l'avion, malheureusement, et du coup, bon, voilà, c'était cette date-là, c'était les 30 ans de la tragédie, donc c'était voilà, c'était encore pire. Il apprend le même jour sa suspension, sa sanction de un an. Donc, pour le peuple péruvien, pour le football péruvien, pour la famille de Paulo Guerreiro, c'était vraiment un jour noir. Donc, voilà, pour resituer les choses dans leur contexte.
Donc, là, à ce moment-là, on est dans le mal du côté du Pérou, toute une nation
voilà.
Qui se dit, bon, ça va vraiment être compliqué parce que bon, le gars Farfan, il est gentil, mais c'est pas Paulo.
Voilà.
Raúl Ruiz Diaz, remarque Raúl Ruiz Diaz avec Morelia, il en
oui.
Fait des choses. Enfin, bon.
Voilà,
Paulo,
après,
c'est Paulo. Il y a aussi le charisme qui allait avec, et sans Paulo, c'était différent. Mais tout cela va se terminer de belle manière avec, donc on l'a dit, une réduction de suspension à 6 mois, il me semble, et
voilà,
d'une manière assez particulière que tu vas nous expliquer.
Voilà, donc exactement. Donc le 20 décembre, juste avant les fêtes, parfait pour Noël. Donc réduction de peine. Voilà, Paolo, il prend juste 6 mois. Donc il pourra jouer le mondial. Donc ça, c'est super. C'est la grosse nouvelle de fin d'année. Et alors voilà, comme on en parlait, c'était assez farfelu la défense de Paolo, parce que ses avocats, pour prouver son innocence, ses avocats ont utilisé 3 momies incas. Donc voilà, pour expliquer un peu, donc ici au Pérou, donc c'était les Incas, ils faisaient des sacrifices pour apaiser la colère des dieux, etc. Donc ils emmenaient des petites filles vierges à sacrifier en haut de la montagne, dans les glaciers. C'est pour ça qu'on a pu retrouver ces momies qui étaient très bien conservées, jusqu'à même la nourriture qu'ils ont ingérée. Et ils ont trouvé dans les cheveux d'une momie la même molécule en grande quantité qui a été trouvée aussi dans le corps de Paulo Guerreiro. Donc tout ça pour en fait expliquer que cette substance, elle reste dans le corps à vitam aeternam. Donc voilà, ce sont des momies qui ont 500 ans et on retrouve encore cette molécule. Donc en fait, ils ont appuyé la défense de Paolo sur ce fait, sur le fait que voilà, peut-être Paolo a consommé un thé de coca. Donc en fait, oui, je vous le rappelle aussi, au Pérou, on consomme ces petites feuilles de coca séchées. sous forme de thé. Donc rien à voir avec la cocaïne, mais ça reste la feuille de coca. Donc c'est ça qui a
voilà,
été retrouvé dans le sang.
Une pratique culturelle, une pratique, voilà, ça fait partie du patrimoine, une pratique populaire, ça n'a rien à voir avec une drogue, qu'elle soit dure ou douce.
Exactement. Voilà, donc en fait c'est vraiment sur ça que se sont basés les avocats de Paolo, voilà, qui ont réussi à obtenir une réduction de peine de 6 mois. Mais maintenant, voilà, Paolo, lui, veut laver son nom, il veut laver, veut prouver son innocence complète. Il va aller devant le TAS, hein, le tribunal arbitraire sportif. 15 janvier, normalement, il devrait présenter avec ses avocats pour vraiment. Donc, il va utiliser la même méthode qu'il a utilisée devant la FIFA avec ses momies pour expliquer que voilà, il est innocent, il n'a pas du tout pris de la cocaïne, c'est même peut-être. Ça a été peut-être infecté dans son alimentation par vous prenez une théière qui a servi à faire du thé de coca pour faire du thé d'autres choses, ben voilà, vous avez retrouvé cette substance. Donc ça a marché devant la FIFA, donc voilà, on espère que ça va marcher aussi devant le TAS pour pouvoir innocenter complètement Paolo et annuler la sanction.
Oui, parce qu'on a quand les hypothèses ou la défense de l'intoxication alimentaire est sortie, on a commencé évidemment très vite ressortir l'argument de mauvaise foi. On rappelle d'ailleurs qu'il y a des joueurs mexicains en 2011 qui avaient été contrôlés de la même manière, notamment Guillermo Ochoa, qui a changé sa carrière parce que Memo Ochoa devait signer au PSG, c'était presque fait, et ce résultat positif a fait annuler la négociation et il s'est retrouvé à Ajaccio, comme quoi il aurait pu faire partie du projet Qatar, le Memo. Mais voilà. Revenons-en à Paolo, là voilà, tout ça pour dire, on n'est pas sur une défense un peu mauvaise foi, etc. Voilà, là, il y a vraiment...
C'était très sérieux, justement. C'est vraiment... Ça a été avec des archéologues aussi qui ont appuyé les faits. Et bon, au final, bon, j'espère que, voilà, c'est important aussi qu'ils annulent sa sanction parce qu'en fait, il y a aussi des matchs amicaux qui sont prévus, notamment au mois de mars. Donc, c'est vrai que ça serait bien que Paolo y participe parce que, voilà, ce ne sont pas simplement des matchs amicaux, sinon des matchs de préparation pour le Mondial. Donc c'est important d'avoir toute l'équipe, tous les joueurs concernés et avec le capitaine pour pouvoir vraiment défendre les couleurs du Pérou.
Très bien, et ben voilà, Romain, tu fais donc ton entrée dans les podcasts de Lucarno Posé et enfin voilà, un peu dans Lucarno Posé avec une histoire d'archéologie au service du football. On a vu moins original que ça, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Tu commences pas mal du tout.
Au final, c'est les Incas qui vont vraiment aider l'équipe du Pérou, qui vont aider Paolo avec toutes les histoires qu'on entend, les chamans péruviens. Et ben c'est vrai, il y a vraiment les chamans Incas, il y a 500 ans, ils ont dissimulé des momies pour pouvoir sauver Paolo. Voilà, on peut voir ça comme ça.
Donc ce sera pour de vrai la sélection Inca qui ira défendre les couleurs du Pérou en
Exactement.
Russie en 2018. Voilà. Merci beaucoup, Romain. Et je te dis à très vite pour parler cette fois du championnat. On va parler un petit peu des The Strongest, Sporting Cristal, Universitario et compagnie.
Exactement, avec plaisir.
Ciao, ciao Romain.
Salut.
Merci à tous de nous avoir suivis pour cette première émission de 2018. Je vous donne pour ma part rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bola Latina. Salut à tous.